Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, monsieur Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Il est des best-sellers qui interrogent, comme celui-ci, dans le classement des meilleures ventes de Der Spiegel. Il a bondi en une semaine de la 11e à la 5e place. Note le correspondant du Figaro à Berlin, Nicolas Barotte. Mercredi 16 mars, relève Télérama, il figurait en 2e place du classement des essais pour la 5e semaine consécutive, un peu plus d'un mois après sa publication, poursuit le Figaro. L'édition critique de Mein Kampf est un succès de librairie. 33 000 exemplaires de ce pavé en 2 tomes ont déjà été vendus. Le livre est en rupture de stock et il faut attendre parfois plusieurs semaines pour le recevoir. Seulement 4 000 exemplaires avaient été initialement imprimés. Le prix 59 € n'a pas rebuté les lecteurs curieux de découvrir l'objet tabou, pas plus que les 2 000 pages et les 3 700 notes. Il y a 3 raisons à cet intérêt, juge Christian Hartmann de l'Institut IFZ qui a édité cette édition critique. L'historien, à l'origine du projet, a supervisé l'ensemble de l'étude du pamphlet. Tout d'abord, explique-t-il, Mein Kampf a été interdit jusqu'à aujourd'hui et nous vivons dans une société qui connaît peu de tabous. Cela suffit à rendre les gens curieux. Ensuite, Mein Kampf constitue une relique du Troisième Reich qui était ou reste présent dans beaucoup de familles. Les gens veulent connaître la vérité, entre guillemets. Enfin, cet intérêt est le résultat de la confrontation de l'Allemagne avec le national-socialisme, ce qui n'est pas nouveau. L'historien balaye donc les remarques sur un succès éditorial du livre-programme d'Adolf Hitler. Il ne s'agit pas d'un succès de Mein Kampf, mais de notre édition, insiste-t-il. Cela n'aurait pas pu mieux se passer. Nous avons occupé un terrain dont d'autres auraient pu abuser. C'est un succès d'un regard critique sur Mein Kampf. C'est pourquoi je dirais mission accompli. L'ouvrage n'a rien d'une étude universitaire basique, il laisse une impression étrange avec ses 2 volumes aux couvertures épaisses gris-souris et aux pages en papier de qualité qui en font un beau livre qu'on serait presque tenté de mettre en évidence dans sa bibliothèque. À l'intérieur, le texte entier d'Adolf Hitler est placé au centre des pages. Dans les marges s'accumulent les commentaires et les analyses comme pour le cerner. À l'Institut IFZ, on assure que les acheteurs sont avant tout des scientifiques ou des passionnés d'histoire. Il est d'autres best-sellers qui sont lus, eux, par des détenus, leurs avocats et des juges. Cette journée du 18 mars, Édouard Louis l'aura passé entre les murs du palais de justice de Paris, raconte notre consoeur en dispute Émilie Barnett dans Les Inrecuptibles, après la polémique déclenchée par En finir avec Eddie Bellegueule en 2014. Avec Histoire de la violence, Louis est-il allé trop loin, s'interroge-t-elle. Nouvelle puissante démonstration de la violence comme produit d'une structure sociale, l'auteur y met en scène son propre viol, suivi d'une tentative de meurtre en décembre 2012 à Paris par un homme d'une 30aine d'années nommé Reda. La presse a salué ce livre, en général, où il n'y a pas une seule ligne de fiction, comme le déclarait l'auteur à Livre Hebdo. Et voilà que 4 jours après sa parution, l'homme que l'écrivain accuse d'avoir tenté de le tuer est arrêté pour une affaire de stupéfiants. On l'identifie grâce au relevé de ses empreintes. Il a déjà fait plusieurs mois de prison pour vol en 2014, qui coïncide avec les traces d'ADN prélevées dans l'appartement de l'écrivain. Riyad B, alias Reda, est placé en détention provisoire et aujourd'hui, c'est lui qui porte plainte contre Édouard Louis. Parmi les griefs révélés par l'Obs, les avocats du plaignant, Thomas Ricard et Mathieu de Valois, évoquent l'ordonnance de la juge des libertés qui a utilisé la parution du livre comme une circonstance aggravante justifiant le placement en détention de leur client. Le présumé agresseur et héros, entre guillemets, du deuxième livre d'Édouard Louis l'a donc attaqué en justice pour atteinte à la vie privée et atteinte à la présomption d'innocence. Il exige qu'un encart soit placé dans chaque exemplaire, ainsi que 50 000 € de dommages et intérêts. Pour l'avocat du romancier Emmanuel Pierrat, le personnage de Reda n'est pas reconnaissable. Il s'indigne en revanche qu'on ait mis 3 ans à l'arrêter. En France, mieux vaut ne pas être violé quand on est pédé, déclare-t-il. La justice et la police se réveillent quand une histoire de viol devient un best-seller. Encore selon l'Obs, qui a rencontré le compagnon de Reda, ce dernier reconnaît avoir passé la nuit avec lui, mais il ne l'a jamais violé et n'a jamais eu d'arme en sa possession. L'identification de gens réels dans une œuvre littéraire n'est évidemment pas un fait rare. Il a valu bien des tracas aux auteurs assignés en justice par leur muse, entre guillemets. Parmi eux, Christine Angot, Philippe Besson, plus récemment Éric Reinhardt. En revanche, qu'un roman puisse servir de pièce à conviction dans une affaire pénale serait un cas inédit. Aux États-Unis, certains noms d'écrivains sont associés à l'élucidation partielle d'affaires criminelles, comme Robert Graysmith et son livre Enquête sur le tueur du Zodiac, mais on imagine mal Édouard Louis en apprenti détective semant dans son récit des indices pour coincer son supposé agresseur. Histoire de la violence comporte un passage où il dit lui avoir hésité à porter plainte. Je disais seulement que je ne voulais pas que cette histoire s'étire sur les mois à venir. J'expliquais qu'une procédure me forcerait à me répéter encore et encore, que ce qui s'était passé deviendrait d'autant plus réel. Reste que le jeune écrivain a l'art de s'empêtrer dans des situations fâcheuses. Après, dit Belgueule, le voilà pris dans un imbroglio juridique. Étrange immixtion de la réalité dans un romanesque qui n'en manquait déjà pas, commente David Le Bailly dans l'Obs, comme si, se poussant du col, elle venait réclamer la part de lumière qui lui était due. Étrange confusion aussi, un livre devenant potentiellement un élément à charge ou à décharge dans une instruction pénale.